France Inter.
Bonjour à tous. Le glyphosate, pas forcément responsable des malformations de Théo. La justice a finalement tranché. La famille Grataloup déboutée, bien que la maman dénonce un lien évident avec son exposition aux pesticides lorsqu'elle était enceinte. Témoignage du papa dans ce journal. Une ATSEM derrière les barreaux dans l'Hérault. Une femme de 59 ans suspectée de viol sur plusieurs enfants, 3 à 4 ans dans une école maternelle. De nouvelles frappes sur la capitale ukrainienne. Il y a des morts, des dizaines de blessés. La Russie assure avoir récupéré ce matin un bastion stratégique dans l'est du pays, Kiev dément. Le dernier rush dans les négociations avant les nouvelles surtaxes à l'entrée du marché américain. La Corée du Sud passe à côté du pire. Et puis après le record du monde, c'est l'or ou rien pour Léon Marchand, le nageur français aligné. D'ici une grosse vingtaine de minutes sur la finale du 200 mètres quatre nages, Maxime Grousset s'arrache aussi sur 100 mètres nage libre. Leur combat est devenu l'un des symboles de la lutte contre les géants de l'industrie chimique. La famille de Théo Grataloup a perdu son procès contre Bayer Monsanto. La décision de justice a été rendue ce matin. Bonjour Alexandre Berthaud.
Bonjour.
Le jeune homme de 18 ans souffre de graves malformations congénitales. Sa mère fait un lien avec son exposition au pesticide glyphosate lorsqu'elle était enceinte, mais le tribunal de Vienne estime que les preuves manque.
Voilà, comment prouver presque 20 ans plus tard que oui, vous avez bien utilisé telle marque de pesticide pour désherber. C'était toute la difficulté dans ce dossier pour la famille Grataloup et ses avocats. Sabine Grataloup l'affirme, lorsqu'elle était enceinte, elle désherbait sa carrière à chevaux avec du glyphosate, du glipper produit par Monsanto. Deux témoins ont affirmé l'avoir vu désherber, oui, mais personne d'autre que la mère de Théo ne se souvient précisément de la marque du produit utilisé et donc rien ne permet de prouver qu'il s'agit de glipper. La famille Grataloup est déboutée. Le père Thomas regrette le niveau de preuve demandé par le tribunal.
Quand on a épandu le produit, on n'avait pas un huissier de justice avec nous pour le constater. Donc on ne peut pas avoir toujours une preuve à 100% qui soit complètement irréfutable. Si on fait un parallèle avec les victimes de l'amiante, il a fallu qu'il y ait beaucoup de décès pour que finalement on prenne le problème à bras-le-corps sans réclamer aux gens les factures des fabricants de toitures en amiante des immeubles dans lesquels ils étaient.
En 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes professionnelles de pesticides avait reconnu un lien entre le glyphosate et les malformations de Théo. Mais judiciairement, si Bayer Monsanto a déjà versé des milliards à des malades de cancer, notamment aux États-Unis. Jamais la firme n'a été condamnée à le faire pour une victime de malformation comme Théo. Ses parents continuent donc d'espérer cette première judiciaire.
Alexandre Berthaud et la famille de Théo devraient faire appel de la décision de justice. Autre action, cette fois dans le Haut-Rhin, une plainte collective. 400 personnes va être déposée. Ce sont nos confrères d'ici Alsace qui le révèlent. Ça fait 3 mois que l'eau ne coule plus au robinet dans certaines communes de l'agglomération de Saint-Louis, des polluants éternels retrouvés en bien trop grande quantité. Les autorités et l'opérateur Veolia, directement accusé par l'avocat maître André Chamy d'avoir beaucoup trop traîné avant d'agir.
Depuis avril 2023 au moins, et des analyses répétées ont prouvé les dépassements, ce qui a été signalé par l'ARS. Et ça a été évoqué au cours des réunions de Saint-Louis Agglo. Et pendant 2 ans, bien entendu, on a caché la vérité. Et c'est cela qui est sanctionnable. Parce que quand, encore une fois, je vous fournis de l'eau en toute confiance. Moi, quand j'ouvre le robinet, je suis censé pouvoir boire cette eau-là. Or, personne ne m'a dit que cette eau était contaminée. Évidemment, les gens ont bu de l'eau contaminée avec une contamination qui peut provoquer des maladies graves, qui peuvent aller jusqu'à la mort. En termes juridiques, ça s'appelle de l'empoisonnement. C'est pas plus compliqué que ça.
60 000 habitants sont toujours soumis à des restrictions d'eau potable dans 11 communes du sud Alsace. Elle était employée depuis 9 mois dans une école maternelle de Vic-la-Gardiole, près de Montpellier, dans l'Hérault. Une femme vient d'être placée en détention provisoire, mise en examen, suspectée d'avoir sexuellement abusé d'une dizaine d'enfants et rattrapée par les enquêteurs. Mathilde Ansker, grâce à un signalement reçu reçue au début du mois par la maire de la commune.
C'est ce que nous dit la maire de Vic-la-Gardiole, Magali Ferrier, qui reçoit donc un mail d'un parent d'élève à 20h le 2 juillet. Elle fait remonter immédiatement ses informations au parquet et c'est là que l'enquête commence. D'après le procureur de la République, la suspecte est une ATSEM, vous savez, ces agents qui aident les enseignants de maternelle dans les tâches quotidiennes. Elle est soupçonnée de s'en être pris à 9 enfants de 3 à 4 ans. Le procureur de la République mentionne des actes de pénétration digitale et de masturbation. L'enquête couvre une période qui s'étend de son embauche en octobre jusqu'aux grandes vacances. Pour l'instant, au moins 2 familles ont porté plainte. La suspecte est âgée de 59 ans. Elle est en ce moment en détention provisoire.
Mathilde Ansker, une cellule psychologique doit être mise en place à l'école à la rentrée. Mais les modalités restent à définir. C'est une information France Inter. Il y aura bien un procès pour 6 hommes renvoyés aux assises pour l'attentat dans un quartier juif de Paris en 1982, 6 morts rue des Rosiers. Le principal suspect, Abou Zayed, est notamment concerné. 2 personnes mises en examen pour non-dénonciation de crime en Essonne. Il s'agit des parents du jeune homme de 23 ans accusé du meurtre de Louise, cette collégienne de 11 ans tuée dans un bois au début de l'année à Longjumeau. Ils sont soupçonnés d'avoir su et de ne pas avoir contacté les forces de l'ordre. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Une enquête ouverte à Lille pour apologie du terrorisme. Une jeune femme de 25 ans est visée. Elle arrive de Gaza. Elle devait étudier à Sciences Po à la rentrée. Mais l'institution annule son inscription après la découverte, bonjour William de Delesseux.
Bonjour Sébastien.
De plusieurs publications sur ses réseaux sociaux.
Effectivement, plusieurs posts où la jeune fille a évoqué certains dignitaires du Hamas comme des martyrs. Un mot assez courant, là d'où elle vient, à Gaza, où plus de 60 000 Gazaouis ont été tués par Israël depuis le 7 octobre 2023. Mais d'autres publications repostées sont clairement antisémites. Sciences Po Lille a décidé de prendre ses distances avec celle qui devait devenir étudiante à la rentrée. Impossible de faire autrement quand le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a évoqué des propos inacceptables, quand le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, dit saisir le procureur au titre de l'article 40. Le directeur de l'IEP, Étienne Perra, avait difficilement un autre choix devant lui.
Nous, ce que nous avions validé, c'était son profil académique. Donc c'est sur ce plan que nous nous étions prononcés. Dès lors que nous avons eu ces informations avec des contenus qui, évidemment, sont en contradiction frontale avec les valeurs de Sciences Po Lille, avec les lois de la République plus généralement, j'ai pris personnellement cette décision d'annuler l'inscription prévue.
Le directeur pris dans cette polémique pour avoir logé temporairement l'étudiante chez lui, mais précisons-le bien, il l'a fait car il était absent de Lille à ce moment-là. C'est le consulat de France à Jérusalem qui avait sélectionné cette étudiante. Le Quai d'Orsay a depuis annoncé ouvrir une enquête interne. On ne sait pas ce que va devenir la jeune fille de 25 ans. Nous n'avons pas pu la joindre directement. À ce stade, elle est toujours dans l'Hexagone et devait être entendue par la police ce matin. D'après nos informations, elle est bouleversée et accablée par la situation.
William Delesseux. Encore de gros cailloux dans les chaussures de l'exécutif. Tout le monde tout sourire. On s'en souvient il y a 3 semaines lors de la signature de l'accord de Bougival, censé créer un futur État de Nouvelle-Calédonie dans la France. Dans la foulée des émeutes meurtrières de l'an dernier. Bonjour Timor Osturk.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le ministre des Outre-mer Manuel Valls s'était empressé de saluer un engagement majeur. Le ton est aujourd'hui beaucoup moins assuré, alors que chez les indépendantistes, la principale composante du FLNKS s'oppose désormais frontalement à l'accord.
Oui, pour le député Emmanuel Djibaou, président de l'Union calédonienne, le document reprend uniquement les positions des loyalistes et ne respecte pas les fondamentaux de la décolonisation. Pourtant, le 12 juillet dernier, Emmanuel Djibaou signait l'accord de Bougival, qui prévoit la création d'un État de Nouvelle-Calédonie au sein de la République, une double nationalité française et calédonienne, le transfert possible de compétences régaliennes, sécurité, diplomatie, monnaie, entre autres. Mais ce compromis, présenté un peu vite comme un aboutissement, devait bien être présenté par les différents partis politiques, alors militants pour validation au ministère des Outre-mer. On pense qu'on y verra plus clair après le congrès des indépendantistes du FLNKS dans 10 jours et que l'Union calédonienne n'est pas en rupture complète avec l'accord, mais souhaite plutôt rediscuter certains termes. Le ministre Manuel Valls prévoit déjà l'étape suivante, fin août, des travaux préparatoires pour transcrire l'accord en projet de loi avec toutes les forces politiques. politique.
Timur Özturk. Encore une vaste opération de secours dans la Manche. 94 migrants récupérés en mer au cours des deux derniers jours au large du Pas-de-Calais et du Nord. Une centaine de personnes avaient déjà été secourues en tout début de semaine, selon la préfecture maritime. Volodymyr Zelensky appelle le monde à œuvrer pour un changement de régime en Russie. Le président ukrainien dénonce ce matin un spectacle meurtrier après de nouvelles frappes la nuit dernière sur la capitale. Le bilan est lourd, au moins 6 morts, dont un enfant à Kiev, Bastien Bory.
300 drones, dont une majorité de drones kamikazes Shahed, une dizaine de missiles balistiques et de croisière, et une triste nouveauté, des nuées de faux missiles et de drones factices. Une puissance de feu trahissant la volonté du Kremlin de saturer la défense anti-aérienne de Kiev, d'ordinaire assez efficace contre les raids russes, mais cette nuit l'attaque a été longue. Complexe, elle a duré 6 heures, de 23h à 5h du matin. Tous les canons de la DCA ukrainienne postés dans la ville étaient en activité, dans un fracas qui a laissé plusieurs ruines, dont celle d'un immeuble sous lequel ont été extraits 6 corps sans vie. Un enfant de 6 ans fait partie des victimes d'une armée russe misant sur l'usure du camp ukrainien et occidental. Car si Volodymyr Zelensky recommande la confiscation de tous les avoirs russes, la pression diplomatique constante ne suffit pas à changer l'équation meurtrière pesée par Moscou, qui déclare aujourd'hui avoir présumément capturé la ville de Tchassiviar dans le Donbass après 2 ans de combat. Donald Trump tient sa réponse à l'ultimatum qu'il a posé, mais il reste du temps. Celui-ci expirant vendredi prochain, le 8 août.
Et l'armée ukrainienne ce matin dénonce des mensonges totaux et dans la revendication russe de la prise de Tchassiviar, ancienne place forte des troupes de Kiev. Le bilan s'alourdit encore après les pluies diluviennes des derniers jours en Chine. 44 personnes sont mortes, l'essentiel déploré dans un établissement pour personnes âgées. 9 autres sont toujours portées disparues, annoncent ce matin les autorités. Trump, le négociateur au travail à la veille de l'entrée en vigueur des droits de douane, plus 15% pour nous en Europe, plus 15% aussi finalement pour plusieurs pays asiatiques, un temps menacé de tarifs douaniers beaucoup plus importants. C'est Lio Fioretti en Corée du Sud, c'était moins une.
Un soulagement et un contrat négocié à 2 jours à peine de la mise en place des droits de douane américains le 1er août. La Corée du Sud rejoint son voisin Nippon dans le cercle des pays asiatiques ayant décroché un rabais des tarifs douaniers. 15% sur tous les produits coréens importés aux États-Unis au lieu des 25% voire 50% sur les automobiles. À cela s'ajoutent 350 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis et 100 milliards d'achats de gaz américains. Les États-Unis, eux, ne paieront aucun droit de douane comme c'était déjà le cas auparavant. Les détails de l'accord seront discutés plus tard, mais pour l'instant, les négociateurs coréens, épaulés des capitaines d'industrie locales, reviennent chez eux victorieux après plusieurs mois de négociations extrêmement difficiles. Malgré des concessions, la Corée du Sud est parvenue à ne pas plus ouvrir son marché aux produits agricoles américains. Donald Trump s'est félicité de cet accord conclu avec le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung, qu'il a invité à la Maison-Blanche dans 2 semaines.
C'est Lio Fioretti, correspondant d'Inter. En Corée du Sud, à Séoul, le président américain affirme par ailleurs que l'accord commercial avec le Canada va devenir très difficile après l'annonce d'Ottawa qui prévoit de reconnaître, comme la France, comme le Royaume-Uni, l'État de Palestine lors d'une prochaine conférence à l'ONU en septembre. 80 000 places en plus pour passer le permis de conduire, c'est le ministère auprès du ministre de l'Intérieur François-Noël Buffet qui l'annonce pour tenter de régler l'embouteillage en cours depuis des mois dans les écoles de conduite. 108 inspecteurs doivent être recrutés. Les derniers moments de concentration pour le Roi Léon, le phénomène de la natation française, quadruple champion olympique, est à quelques minutes maintenant d'attaquer sa finale des championnats du monde sur 200 mètres 4 nages. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
En direct de Singapour, tout le monde encore bouche bée autour de vous après la performance majuscule hier de Léon Marchand, ce record du monde de la discipline pulvérisé de plus d'une seconde.
Oui, et encore plus, vous l'imaginez, dans le camp tricolore, hein, sous le choc, toujours au lendemain d'une telle prouesse. La capitaine de l'équipe de France, Beryl Gastaldello, évoquait même ce matin, après sa qualification pour les demi-finales du 100 mètres nage libre, l'une des plus belles courses de l'histoire. Et pour Johan Ndoye-Bouard, c'est un truc de ouf, comme il nous l'a dit, le médaillé de bronze dans Do nous confiait qu'il avait regardé ça depuis sa chambre d'hôtel et pas la piscine. Et heureusement, s'est-il amusé, sinon il en aurait perdu ses jambes. Alors pour l'instant, c'est le seul record du monde battu dans cette compétition. Reste quand même pour Léon Marchand, ne pas oublier l'essentiel, aller chercher le titre hein, maintenant, lui qui est déjà double champion du monde et champion olympique de la distance.
Et l'autre grand rendez-vous du jour, Jérôme, c'est la finale du 100 mètres nage libre hein, avec un autre Français, Maxime Grousset, qui va devoir s'employer lui pour tirer son épingle du jeu.
Oui, c'est sûr, hein, ce sera une autre paire de manches pour le tout récent champion du monde du 50 mètres papillon. Alors autant sur cette nage, le papillon Maxime Grousset paraît insubmersible, autant sur la distance reine du 100 mètres nage libre, eh bien, la concurrence est très élevée avec sur la ligne de départ d'anciens champions olympiques, d'anciens champions du monde. Il y a le Roumain David Popovic, l'Australien Kyle Chalmers. La seule bonne nouvelle, c'est que le recordman du monde, le Chinois Pan Zhanle, a fait pchit hier en demi-finale, éliminé. Alors pourquoi pas pour Maxime Grousset, mais il va falloir nager très très vite, sans doute devra-t-il réaliser sa meilleure performance personnelle pour espérer monter sur le podium tout à l'heure.
Jérôme Val depuis l'Aquatic Center de Singapour, on vous laisse profiter du spectacle et on suit aussi une autre tricolore, la Française Analia Pigré, engagée sur 50 mètres d'eau aujourd'hui. Ça va grimper, première véritable étape de montagne, sixième jour de course sur le Tour de France féminin et peut-être une explication entre les deux premières du classement, la maillot jaune Kim Lecort et la Française Pauline Ferron-Prévot, 18 petites secondes derrière pour le moment au général. Et puis c'est un jeu vidéo qui a beaucoup de punch, Feldad Boxing, un jeu de boxe presque sans violence avec des marionnettes façon Muppet Show. Olivier Bénis a rencontré son créateur.
Lorsque les spectateurs du Summer Game Fest ont vu pour la première fois ces marionnettes poilues s'envoyer des grosses mandales, ils ont eux aussi pris une sacrée claque.
On maîtrise très bien le rendu du poil, le rendu de marionnettes, l'animation de marionnettes. Et il y a même quelques personnes qui ont cru que c'était des vraies popettes qu'on avait filmées. Parfois, j'ai dû faire des arrêts sur image pour montrer non, c'est de la 3D, regardez, il y a des erreurs ici et là.
Sébastien Deguy est français, installé aux États-Unis, où il a fondé le studio Sans Strings. Feldad Boxing est leur premier jeu et il avait un peu peur de le révéler si tôt.
Personne n'avait entendu parler du jeu, à part Jeff Keighley, qui est le fondateur et le présentateur de Summer Game Fest, qui lui-même est un fan de marionnettes. Alors moi, j'étais contre au début parce que, bah, petit détail, on n'a pas de jeu, quoi. On a une techno, on a un système et on avait une idée d'où là où on voulait aller, mais maintenant faut le fabriquer. Finalement on a pris la décision de lancer et puis grand bien nous en a pris puisque le retour a été incroyable. C'était totalement espéré évidemment, mais vraiment inattendu.
Car ces premières images ont mis le jeu sur le radar des joueurs, particulièrement nombreux à l'ajouter à leur liste de souhaits sur la plateforme de vente Steam.
La plupart des jeux Steam ont moins de 1000 souhaits. 10 000, c'est considéré comme un bon lancement parce que ça permet de sortir un petit peu du lot. Il nous a fallu 2 semaines pour atteindre les 100 000, ce qui est énormissime. Ce qui nous a permis de confirmer plein de choses et également d'attirer l'œil d'éditeurs. Donc le pari réussi.
Sébastien Deguy estime qu'il faudra désormais entre 1 an et demi et 2 ans pour finir de développer le jeu et mettre KO toutes les critiques.
Olivier Bénis, un crochet vers la météo.
La météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Un nuageux au nord, plus ensoleillé au sud, un classique.
Oui, une perturbation nous arrive par les côtes de la Manche. Les nuages de cette perturbation se propageront jusqu'au bord de la Loire, à l'Île-de-France, à la Lorraine et au nord de la Bourgogne, effaçant les éclaircies de ce matin. Cette perturbation sera quand même surtout active au nord de la Seine avec des averses et même des risques d'orages sur les Hauts-de-France et les Ardennes. Quelques averses plus faibles et isolées pourront tout de même se faire remarquer sur la Bretagne et la Normandie, voire en Lorraine cet après-midi. Sur les Pyrénées et entre la Vendée, la vallée de la Garonne, l'Alsace, la Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel sera plus partagé, hésitant entre belles éclaircies et développement nuageux. Quelques petites averses pourront fleurir sur le Jura, voire sur les Pyrénées, alors que le ciel va se dégager sur les plages de l'Atlantique. Et puis le soleil dominera aussi sans partage du midi toulousain aux régions méditerranéennes, avec toujours un petit risque d'averse sur le Mercantour et la montagne corse. Les températures maximales se rapprochent des normales de saison. Cet après-midi, il fera 23 degrés à Lorient et à Caen. 24 degrés à Lille, Biarritz et La Rochelle, 26 degrés pour Paris et pour Strasbourg. On attend 27 degrés à Nice et à Bordeaux, 28 degrés à Lyon, 29 à Ajaccio et Toulouse, jusqu'à 31 degrés à Marseille et 32 à Perpignan. A noter que le Mistral et la Tramontane restent modérés et maintiennent un risque feu élevé autour de la Méditerranée, en particulier sur l'Aude, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.
Merci beaucoup Sébastien Léas, Météo France.